Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Roréa. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Le coup. Qu'est-ce que le coup? Et qui te dira de ce qu'est le coup? Le jour où les gens seront comme papillons éparpillés et les montagnes comme laine cardée, alors, quant à celui dont les balances seront lourdes, alors, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont les balances seront légères, alors sa destination est une fosse. Et que sais-tu de ce qu'elle est? Un feu ardent.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 28 Mordad 1402 du calendrier iranien, 19 août 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Amir Abdullahian et le prince héritier saoudien ont eu des entretiens francs, directs et fructueux à Jeddah. Le ministre iranien des Affaires étrangères a terminé sa visite en Arabie saoudite. Une forte demande pour l'eau lourde d'Iran à travers le monde. Et les prisonniers palestiniens ont suspendu leur grève de la faim. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullahian, a terminé sa visite en Arabie saoudite, où il a rencontré le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman dans la ville de Jeddah. Le ministre iranien a souligné que les pourparlers étaient explicites, francs, fructueux et productifs sur la base de la politique de bon voisinage. Les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer les relations durables dans tous les domaines, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne. Nous avons un consensus sur la sécurité et le développement pour tout dans la région, a tweeté le haut diplomate iranien. Au cours de la rencontre, Amir Abdullahian a réitéré la détermination de l'Iran à améliorer les relations avec les pays de la région, notamment l'Arabie saoudite. Le commentaire politique d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. Selon le commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique, la marine américaine ne respectait pas à une certaine période les règles relatives aux voies navigables au sud de l'Iran, mais aujourd'hui, il se voit dans l'obligation de prendre en compte les avertissements de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique. Le contre-amiral Tangsiri a insisté sur la capacité militaire des forces armées du corps des gardiens de la révolution islamique à atteindre l'autosuffisance en équipement de défense. L'une des directives du leader de la révolution islamique était d'avoir une marine digne du nom de la révolution islamique, et cela n'était possible qu'en dominant les eaux du golfe Persique. Nous l'avons fait et aujourd'hui nous dominons cette région stratégique. Même les porte-avions et les hélicoptères de l'armée américaine se soumettent aujourd'hui à notre droit maritime lorsqu'ils traversent le golfe Persique, a-t-il indiqué. En allusion aux acquis de la République islamique d'Iran dans l'industrie nucléaire ces dernières années, le président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique a indiqué que l'eau lourde iranienne était très recherchée dans le monde en raison de son haut niveau de qualité. Mohammad Eslami a dénoncé les récits politisés sur le programme nucléaire pacifique de la République islamique d'Iran. Certains pays cherchent à donner une image horrible du programme nucléaire iranien dans le monde en politisant l'industrie nucléaire pacifique du pays et en négligeant son format technique, a-t-il déploré. Les détenus palestiniens qui croupissent dans les prisons israéliennes ont suspendu leur grève de la faim à la suite de négociations avec les responsables pénitentiaires du régime sioniste. Près de 1000 détenus avaient entrepris une grève de la faim pour protester contre l'agression dont ils sont victimes de la part des administrations pénitentiaires de l'occupation israélienne. selon un comité palestinien pour les affaires des prisonniers, la grève a été annulée après que les dirigeants des détenus ont obtenu des résultats positifs lors de leur entretien avec les autorités israéliennes. Pendant ce temps, le mouvement de résistance palestinien Hamas a salué le développement comme une victoire majeure pour les Palestiniens. Cela fait suite à l'attaque des services pénitentiaires israéliens contre les détenus palestiniens jeudi à la prison du Negev. Les Palestiniens étaient également furieux de la visite mercredi du ministre israélien d'extrême droite, Ben Gvir, dans la prison d'Ofer. En réaction à la décision des pays de l'Afrique de l'Ouest de faire une intervention militaire au Niger, sous pression de l'Occident, le leader des chiites du Nigeria a averti que les États-Unis et la France pourraient provoquer une crise dans les relations entre le Nigeria et le Niger. Le cheikh Ibrahim Zakzaki a mis en garde contre les complots ourdis par les États-Unis et la France dans le but de creuser le fossé entre les pays africains, en particulier le Niger et son voisin nigérian. Il est clair que ce n'est pas notre guerre, mais la guerre entre les États-Unis et la France. Il pourrait provoquer une crise entre le Nigeria et le Niger, a-t-il déclaré. Vendredi 18 août, des centaines de personnes ont manifesté à Bahreïn pour soutenir les prisonniers politiques qui observent une grève de la faim et ont exigé leur libération immédiate. L'association Al-Wefar, le plus grand parti d'opposition à la monarchie de Bahreïn, a annoncé que les manifestants se sont rassemblés à Manama pour soutenir les prisonniers politiques détenus dans la prison Jav, qui ont procédé à une grève de la faim pour protester contre les mauvaises conditions de leur détention illégale et pour exiger leur libération. L'association Al-Wefar a également fait état de l'aggravation de l'état de santé du religieux chiite, le cheikh Mirza Al-Mahsour, et de son transfert par les agents pénitentiaires bahreïniens dans un hôpital militaire de Manama, la capitale de Bahreïn. Et enfin, la police suédoise a arrêté une femme qui essayait d'empêcher une nouvelle profanation du Noble Coran devant l'ambassade de la République islamique d'Iran à Stockholm. Dans un autre acte de profanation du Noble Coran, un profanateur en série basé à Suède a brûlé un exemplaire du livre sacré des musulmans devant l'ambassade d'Iran à Stockholm. Pendant ce temps, la police a arrêté une femme qui tentait d'empêcher l'acte de sacrilège. Les médias suédois ont déclaré que le réfugié irakien Salvan Momika, sous la protection de la police, a répété l'acte blasphématoire vendredi en criant des propos blasphématoires contre l'islam, les musulmans et le noble Coran. La scène a attiré un grand nombre de personnes, y compris des journalistes. De même, les correspondants des agences de presse suédoises sur place ont déclaré qu'une femme était intervenue pour éteindre le Coran en feu avec un extincteur. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullahian, et le prince héritier saoudien, Mohammed bin Salman, ont eu des entretiens francs et fructueux à Jeddah. Les pourparlers au plus haut niveau depuis que les deux pays ont rétabli leurs relations après des années d'éloignement se sont déroulés à huis clos. dans un message en ligne vendredi sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, Amir Abdollahian a déclaré avoir eu 90 minutes de pourparlers avec le prince héritier saoudien. Le chef de la diplomatie iranienne a souligné que les pourparlers étaient explicites, francs, fructueux et productifs sur la base de la politique de bon voisinage. Les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer les relations durables dans tous les domaines, a déclaré le ministre. Nous avons un consensus sur la sécurité et le développement pour tout dans la région, a tweeté le haut diplomate iranien. Au cours de la rencontre, Hossein Amir Abdollahian a réitéré la détermination de la République islamique d'Iran à améliorer les relations avec les pays de la région, notamment l'Arabie saoudite. La République islamique d'Iran et l'Arabie saoudite peuvent apporter davantage de croissance et de prospérité à la région en améliorant la coopération globale, y compris dans les domaines politiques, économiques, commerciaux, de transit, scientifiques, technologiques et culturels, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne. Il a expliqué que Téhéran et Riyad endossaient une responsabilité historique vis-à-vis des développements mondiaux. Évoquant les réalisations et les capacités de l'Iran, Hossein Amir Abdollahian a souligné la nécessité de renforcer le dialogue ainsi que les liens axés sur le développement en tant que voie du succès dans la région. L'Iran et l'Arabie saoudite jouent des rôles de premier plan dans la région et dans le monde musulman, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. Hossein Amir Abdollahian a décrit la Palestine et Quds comme les questions clés du monde musulman et a déclaré que le régime israélien constituait une menace pour toutes les nations de la région. Le prince héritier saoudien a pour sa part adressé ses salutations et celles du roi de l'Arabie saoudite au leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, ainsi que président iranien Ebrahim Raisi. Mohammed ben Salman a déclaré que l'Arabie saoudite considérait la relation avec l'Iran comme stratégique. Il a rappelé aussi l'invitation de Riyad faite au président iranien pour que ce dernier se rende en visite officielle en Arabie saoudite. La réunion a eu lieu un jour après que le haut diplomate iranien s'est entretenu avec son homologue saoudien Faisal Ben Farhan dans la capitale saoudienne Riyad. Dans un communiqué conjoint après les pourparlers, Amir Abdollahian a déclaré que les pourparlers étaient importants, ajoutant que les relations entre les deux pays progressaient dans la bonne direction. La République islamique d'Iran et l'Arabie saoudite ont convenu à Pékin le 10 mars dernier de reprendre leurs relations et de rouvrir des missions diplomatiques dans un délai de 2 mois. Dans une déclaration conjointe après la signature de l'accord, Téhéran et Riyad ont souligné la nécessité de respecter la souveraineté nationale de l'autre et de s'abstenir de s'ingérer dans les affaires intérieures des pays respectifs. Ils ont également convenu de mettre en œuvre un accord de coopération en matière de sécurité signé en avril 2001 et un autre accord conclu en mai 1998 pour renforcer la coopération économique, commerciale, celle en matière d'investissement, des techniques, de la science, de la culture, du sport et de la jeunesse.
We'll be right back. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission. Nous allons évoquer aujourd'hui dans cette émission la dernière rencontre et audience du leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Khomeini, avec les membres du CGRI et les Basij. Alors, la dernière visite remonte à il y a 4 ans, lorsque le général Soleimani, le plus grand commandant antiterroriste iranien, était encore là et n'était pas encore assassiné par les Américains. Nous allons évoquer l'importance de cette rencontre, de cette audience, les menaces de part et d'autre contre l'Iran, la défense iranienne, le développement de la défense iranienne depuis il y a 4 ans, depuis le meurtre du général Soleimani, avec nos deux invités. Mais je vous propose d'abord de regarder un reportage préparé à ce sujet par mes collègues et on revient tout de suite après.
Le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Sayyid Ali Khamenei, a reçu en audience jeudi 17 août les membres du Conseil suprême des commandants du corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, jeudi, dans le mausolée Hosseinié de l'imam Khomeini à Téhéran. Lors de cette réunion, l'honorable ayatollah Khamenei a mis en garde contre le complot des ennemis visant à ternir l'image du CGRI et des forces volontaires du Basij. La dernière rencontre entre l'ayatollah Khamenei et le haut commandant du CGRI s'est tenue il y a environ 4 ans en présence du général de corps d'armée Qassem Soleimani, le plus haut général antiterroriste iranien assassiné par les États-Unis quelques mois plus tard. Les ennemis n'ont aucun moyen de ternir la réputation du CGRI autrement que par de fausses nouvelles, des rumeurs et toutes sortes d'astuces et de stratagèmes, a réaffirmé le leader de la révolution islamique d'Iran, liant la force d'élite du CGRI comme la plus grande organisation antiterroriste au monde. C'est une organisation militaire bien équipée. C'est une organisation efficace et indépendante, capable d'accomplir des tâches que de nombreuses grandes armées au monde ne peuvent accomplir, a-t-il souligné. L'ayatollah Khamenei a en outre expliqué comment le CGRI se démarquait des autres forces qui ont émergé au début des grandes révolutions telles que la révolution française et la révolution bolchevique en Russie. Ces forces ont souvent fait preuve de tendances destructrices, de désordre et d'un manque de discipline, alors que le CGRI était structuré sous l'autorité centrale de la révolution islamique depuis le début, a-t-il expliqué. L'ayatollah Khamenei a fait allusion à un sommet regroupant de hauts responsables américains, britanniques, français et allemands sur l'île française de Guadeloupe, juste avant la victoire de la révolution islamique de 1979. Ils avaient conclu qu'il était impossible de sauver le régime Pahlavi soutenu par les États-Unis en Iran. Néanmoins, ils ont adopté une stratégie de crise séquentielle dans l'espoir de déstabiliser tout nouveau gouvernement en Iran, a indiqué le leader. Or, une série de crises d'émeutes, de menaces à la sécurité et d'actes de terrorisme de grande ampleur ont marqué la première phase de la crise en République islamique. Les preuves obtenues de l'ancienne ambassade des États-Unis en Iran, surnommée le nid d'espions, ont également révélé que ces incidents s'inscrivaient dans la stratégie de déclenchement de crise délibérée de l'Occident. L'ayatollah Khamenei a salué le CGRI pour ses efforts exceptionnels, les forces d'élite pour leur méthode efficace en vue de contrecarrer les conspirations et protéger la population. En effet, il a évoqué le complot des ennemis visant à saper la révolution islamique en orchestrant des crises et en la démantelant finalement par une manœuvre semblable au coup d'État iranien du 19 août 1953 au coup d'État de 28 Mordad.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Nous avons entendu ce reportage préparé par mes collègues. Je vous présente nos deux invités. Il s'agit de Jean-Maxime Corneille, analyste politique, et également Ahmad Rami, directeur de Radio Islam depuis Stockholm. Je vous dis bonjour, Monsieur Corneille. Si vous voulez bien, on commence avec vous. Vous avez entendu le reportage, mais notamment cette audience, cette rencontre, sans la présence du général Soleimani qui a été assassiné par les Américains, qui a été quand même un grand coup pour l'Iran et pour le CGRI. Dans un premier temps, comment interprétez-vous les réalisations de ces dernières années faites par l'Iran, par la défense iranienne, par l'armée, par le CGRI, notamment en dépit des pressions?
Alors pour moi, c'est vraiment le grand sujet de ces dernières années qui est vraiment apporté à la plus grande gloire de l'Iran. En revanche, je ne serais pas totalement d'accord avec une partie de la mythologie de ce qui a été présenté dans votre reportage, mais je vais me focaliser juste sur l'aspect positif de l'action iranienne, en tout cas dans ma réponse là. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une grande perte pour l'Iran, c'est également une grande perte pour les États-Unis que l'assassinat de Soleimani. Parce que Soleimani a vraiment été un grand commandant antiterroriste dans tout le Moyen-Orient, contre Daesh, mais également contre, on sait très bien, le général Wesley Clark, américain, l'avait dit, ce sont les États-Unis et ses alliés qui ont créé Daesh, mais l'armée américaine savait que c'est grâce au général Soleimani que l'armée américaine a pu se retirer d'Irak dans un certain contexte où, bien sûr, il était dans l'intérêt de l'Iran de voir les États-Unis partir, mais il était aussi, avant tout, historiquement, dans l'intérêt américain d'avoir une bonne coopération avec l'Iran. Et c'est cette coopération entre les États-Unis et l'Iran qui a été détruite, mais détruite également à l'occasion de la révolution de 79. Et ça, c'est encore un autre sujet. Mais ces dernières années, ce ne sont pas les États-Unis qui ont fait abattre Soleimani, c'est Israël et la communauté juive américaine qui ont tordu le bras de Trump pour faire assassiner Soleimani, alors que Soleimani était un ami des États-Unis, dans le sens un ami des véritables États-Unis, pas des forces subversives qui ont pris le contrôle des États-Unis pour, globalement, faire mener les guerres d'Israël avec du sang américain et rendre coupables les États-Unis des pires forfaits au Moyen-Orient élargi pour le compte bien plus d'Israël que des États-Unis, et même pas vraiment d'Israël, mais de la partie la plus subversive d'une certaine communauté juive américaine, alors qu'en réalité les Israéliens eux-mêmes sont mis en danger par ces gens-là depuis les États-Unis. Cette partie la plus fanatique de la communauté juive américaine, souvent d'ailleurs d'origine juive russe, fait prendre aujourd'hui des risques fous à Israël par un bellicisme absolument inepte au Moyen-Orient, dont Israël sera au final la victime par la faute de cette communauté juive fanatique dont la pire partie est en train, malheureusement depuis des années, de pousser les États-Unis au pire au Moyen-Orient. Et c'est contre ce narratif que l'Iran s'est inscrit, en prenant acte du fait que, de toute façon, le jeu politique américain est tellement vérolé que l'Iran ne pouvait compter que sur ses propres moyens militaires et sur ses choix diplomatiques et stratégiques intelligents. Ça a été de deux façons différentes, par la diplomatie, par un resserrement des liens avec les Russo-Chinois, qui eux aussi avaient un intérêt à ce que l'Iran tienne dans cette région et non pas ne soit pas subjugué. Et la deuxième façon, ça a été par la voie militaire, par l'établissement d'un rapport de force contre les États-Unis et contre Israël, depuis la bataille de Fallujah, depuis également la guerre de 33 jours que Nasrallah vient de célébrer au Liban, et depuis également l'établissement plus récent d'un rapport de force contre Israël, notamment y compris par la guerre des couteaux dans ces dernières années. Donc c'est par ce double levier diplomatico-militaire que l'Iran parvient à se faire respecter face à des gens qui ne respectent que, en réalité, la puissance, les dynamiques de puissance. Donc voilà, pardon pour la longue réplique, mais je pense que c'est ce qui est le plus important à retenir de ces dernières années, et c'est tout à porter au crédit de l'Iran.
Merci Monsieur Corneille pour vos explications. Monsieur Rami, vous avez entendu l'analyse de Jean-Maxime Corneille. Vous, à votre avis, comment pourrait-on interpréter ces dernières années passées, notamment en ce qui concerne l'industrie de la défense iranienne, après la perte du général Soleimani, le rôle des membres des corps de gardiens de la révolution islamique dans l'instauration de la stabilité dans un pays comme l'Iran qui est menacé de partout?
Oui, d'abord, moi je suis d'accord avec mon père précédent, le participant.
Oui.
Et je veux seulement ajouter que les gardiens de la révolution islamique d'Iran, c'est grâce à eux que la révolution islamique d'Iran a réussi et que la révolution d'Iran a été protégée contre tous les complots, contre cette révolution. Et ce qui a fait de l'Iran, en réalité, le seul État, la seule nation aujourd'hui dans le monde entier qui est totalement libre de la domination de l'entité sioniste juive, du pouvoir sioniste juif dans le monde, parce que les États-Unis ne sont en réalité qu'un territoire politiquement occupé par Israël, par l'entité sioniste, bien sûr à travers le lobby juif AIPAC et tous les lobbies juifs sionistes aux États-Unis. Donc, en réalité, la République islamique d'Iran est libre. Et la différence entre la République islamique d'Iran et les États-Unis, c'est que les États-Unis ne sont pas libres. Ils sont aussi occupés, dominés par le pouvoir juif sioniste qui, aujourd'hui, occupe et gouverne les États-Unis. Et que, en réalité, c'est la Palestine est occupée militairement et les États-Unis sont occupés politiquement. Et pour libérer la Palestine, il faut d'abord libérer les États-Unis qui sont occupés. Et il faut dire aussi que la République islamique d'Iran ne constitue pas un ennemi ou un danger contre les États-Unis. En réalité, tout le monde le sait, le connaît, la République islamique d'Iran n'a aucun plan de s'attaquer aux États-Unis, de nuire aux États-Unis. La République islamique d'Iran est seulement pour la justice, pour le droit international, qui se traduit en réalité en son soutien à la résistance du peuple palestinien occupé par la domination sioniste juive. Le soutien des États-Unis à Israël et l'animosité des États-Unis à la République islamique d'Iran, c'est seulement dans le seul intérêt de l'entité sioniste. Ce n'est pas dans les intérêts des États-Unis. Les vrais intérêts des États-Unis seraient en réalité de soutenir la justice au Moyen-Orient, c'est-à-dire de soutenir la résistance du peuple palestinien et de soutenir ce qui soutient cette résistance, comme la République islamique d'Iran, le Hezbollah, la résistance palestinienne, bien sûr. Alors, c'est-à-dire qu'en réalité, la République islamique d'Iran, en soutenant la justice, parce que la vraie paix dans le monde ne peut être fondée que sur la justice et non pas sur la force, la loi de la jungle. Et aujourd'hui, Israël existe pas parce qu'il a le droit d'exister, mais parce que il est fort militairement, soutenu par la puissance des États-Unis qui sont aussi occupés par Israël, par le lobby juif sioniste aux États-Unis. Donc la République islamique d'Iran en réalité soutient le peuple américain dans sa résistance contre la domination et contre l'occupation sioniste israélienne des États-Unis. Donc, la Palestine est occupée militairement. Les États-Unis sont occupés politiquement et la République islamique d'Iran soutient la résistance du peuple palestinien et la résistance du peuple américain contre la domination et l'occupation sioniste des États-Unis et de la Palestine. C'est ça comment les choses dans la réalité se présentent. Voilà.
Merci Ahmad Rami. Alors, Monsieur Cornet, en ce qui concerne le rôle du lobby sioniste, on pourra effectivement évoquer ce sujet aussi bien peut-être dans l'assassinat du général Soleimani que les pressions contre l'Iran, que l'entravement des cours des négociations entre l'Iran et les États-Unis durant les dernières années. Vous, comment interprétez-vous ceci ?
Alors, c'est un énorme sujet qui, je pense, même en Iran, n'est pas assez bien compris. Mais l'Iran, au fur et à mesure, a retrouvé une intelligence qui, de mon point de vue, n'était pas initialement celle de la révolution islamique. Cela nécessite pour l'Iran de réunifier son histoire de la même manière que la France a du mal à réunifier sa propre histoire, en lien avec sa révolution. Et en réalité, les sombres... Une révolution, ce sont toujours des combinaisons d'intérêts. C'est-à-dire que il y a une intention initiale, il y a d'autres orientations et les intentions et les conséquences ne sont pas toujours les mêmes. Mais il vous faut garder la mémoire du fait qu'auparavant, l'Iran du Shah d'Iran a été un État otage en réalité avant même le Shah, depuis le début de l'histoire pétrolière. L'Iran a été un otage de la géopolitique pétrolière britannique puis anglo-américaine. Et l'Iran, je l'ai déjà dit sur votre antenne à répétition, a été sans doute le pays au monde qui a le plus subi de déstabilisation pétrolière. Et c'est ce qui donne une grande légitimité à l'Iran et une grande profondeur dans la compréhension historique des jeux pétroliers. Pourtant, l'Iran d'aujourd'hui, pour moi, n'a pas encore assez réunifié sa propre histoire, car il vous faudrait comprendre à quel point le Shah a été manipulé, à la fois pour servir des intérêts pétroliers anglo-américains pour faire augmenter artificiellement les cours, premièrement, deuxièmement, pour se livrer à une répression qui en réalité était conseillée par la CIA, tandis que de l'autre côté, des intérêts étrangers, pactisés avec certains intérêts en Iran, dans tous les cas, des deux côtés, il s'agissait d'affaiblir l'Iran, parce que l'Iran du Shah était un État puissant qui allait se développer correctement, en lien notamment, pas uniquement avec les États-Unis et Israël, mais également avec la France et l'Allemagne et la Russie. Mais la Russie à l'époque était soviétique, ce qui était bien plus délicat. Je parle surtout de la France et de l'Allemagne. À l'époque, il faut que vous sachiez que, vous devez le savoir, mais très peu en réalité de personnes en Iran doivent le savoir, c'est que des agents français ont été assassinés lorsqu'ils voulaient empêcher le pire en Iran, en réalité, ou alors lorsqu'ils ont dénoncé des tractations pétrolières ou la façon dont l'Iran était manipulé pour qu'en réalité le pétrole iranien soit vendu à moindre prix, donc avec de moindres revenus pour l'Iran, donc une dette qui était plus difficilement remboursable, une dette qui avait été créée par les États-Unis, qui poussait l'Iran à des investissements, etc. L'Iran a été largement manipulé d'une certaine façon qui a permis la révolution islamique dans un certain contexte. L'ayatollah Khomeini a été hébergé en France, mais ce sont les États-Unis qui l'ont confié à la France. S'il s'agit de réunifier toute l'histoire, je vous assure qu'elle est un peu moins manichéenne, mais je dis surtout une chose. Il nous faut avoir la date des accords de Camp David en 78. Les Juifs les plus intelligents, y compris aux États-Unis, ont forcé Israël à rendre le Sinaï. C'est à partir de cette date que la communauté juive américaine a voulu modifier l'expertise américaine concernant le monde islamique, sunnite comme chiite. Et il y a eu une bonne part de la guerre du Liban qui a servi à cela, et les lanceurs d'alerte du renseignement américain ont parlé de ces choses-là. Robert Baer, Steve Pechenik notamment, sont pour moi les deux sources les plus pertinentes à ce sujet-là. Steve Pechenik était le négociateur durant les accords de Camp David. Robert Baer a raconté la façon dont l'expertise américaine à Rabizant, l'école de Beyrouth, comme Pechenik l'a raconté, a été notamment détruite à l'occasion de la guerre du Liban, mais détruite d'une façon qui ne profitait pas à l'Iran, mais à Israël. Et ça, c'est très peu dit, parce qu'Israël, à l'époque, voulait se tailler la part du lion dans la guerre du Liban et voulait maintenir un monopole de l'expertise sur le Moyen-Orient, prenant le pas sur l'expertise américaine, grâce notamment à ces attentats. On dit que ces attentats ont été perpétrés uniquement par l'Iran, enfin les sources américaines. Je dis qu'il y a une autre façon de voir les choses, mais je ne peux pas en dire davantage là tout de suite. Néanmoins, la réalité est que l'expertise américaine arabisante a été détruite d'une façon qui a conduit les États-Unis à être de plus en plus en faveur, même pas vraiment d'Israël, mais de la vision la plus fanatique d'une certaine partie de la communauté juive américaine. Il faut bien être séquencé dans notre compréhension des choses, parce que les juifs américains sont les premiers, il y a beaucoup de juifs américains qui ont dénoncé ce que je vous raconte là. C'est grâce à eux que nous avons ces informations-là. Steve Pechenik, négociateur des accords de Camp David, était lui-même juif d'une famille de la Shoah, a été l'un des plus grands dénonciateurs des abus d'une certaine communauté juive fanatique aux États-Unis, notamment le 11 septembre 2001, notamment le bellicisme au Moyen-Orient, etc. C'est là où, en fait, ce qu'il nous faut comprendre, ce sont les luttes d'influence interne au sein du judaïsme. Le judaïsme est une religion composite dont ils ont fait une idéologie, et les fanatiques ont bien souvent massacré les non-fanatiques. J'en avais déjà parlé sur votre antenne avec M. Jacob Cohen. L'aboutissement, c'est que les États-Unis ont endossé la vision la plus juive, sioniste, fanatique et dangereuse d'une certaine partie de la communauté juive américaine qui, elle, n'ira jamais défendre Israël, donc depuis les États-Unis, qui pousse Israël à faire les guerres d'Israël et à se mettre en danger d'une certaine façon qui est de toute façon préjudiciable à la paix. Et c'est face à toute cette signature de la pourriture subversive de la vie politique américaine, impliquant notamment un certain judaïsme fanatique mais déviant, dénoncé par des juifs de haut niveau de tous les horizons possibles. C'est au contact de cette réalité que la révolution iranienne a retrouvé l'intelligence profonde de l'Iran. Ça a mis du temps, et pour moi, c'est surtout dans cette période d'après le 11 septembre 2001, après la guerre de 33 jours, plus cette charnière de 2005-2006, avec en arrière-plan la guerre du Liban des années 80, mais surtout depuis les accords de 2015 et jusqu'à aujourd'hui. C'est grâce à cette vieille compréhension croisée de beaucoup d'intérêts contraires voulant détruire d'une façon ou d'une autre l'Iran, d'une façon totalement hystérique et poussant les États-Unis à mener une guerre pour Israël. Nous ne souvenons plus de ce qui s'est passé en septembre 2012, mais c'était vraiment l'enjeu en réalité. Depuis 2008-2012, il y a eu plusieurs étapes comme ça a été sans interruption. Et je dis qu'encore une fois que c'est face à tout cela que l'Iran a trouvé sa vieille intelligence qui n'était pas restrictivement celle de la révolution islamique, mais également celle de l'Iran plus ancien qui a subi une succession de déstabilisations dont les manœuvres qui ont pesé sur le Shah ou la révolution bolchevique, pardon, iranienne ou les bisbilles des années 80 durant la guerre du Liban n'ont été que des étapes d'une seule et même constante visant à détruire l'Iran en tant que puissance régionale, parce que l'Iran est de toute façon une puissance régionale. Et je dis donc, c'est ma conclusion, c'est que l'Iran a retrouvé de toute façon son intelligence de toutes les façons possibles, mais ce n'est pas encore pour moi totalement accompli aujourd'hui. Néanmoins, c'est en bonne partie grâce à l'Iran et aux prises de conscience récentes que l'Iran est en mesure aujourd'hui de mettre en échec ce bellicisme au Moyen-Orient. Et dernier point, rappelez-vous que Qassem Soleimani voulait un rapprochement entre l'Arabie et l'Iran. Il est très bon que ce rapprochement lui ait survécu. Ça, c'est nous bouclons la boucle, je pense, de ce renversement du Moyen-Orient auquel nous assistons sous nos yeux.
Je vous remercie infiniment, Jean-Maxime Cornet. Alors, nous avions besoin de beaucoup plus de temps pour évoquer le sujet, mais le temps ne nous permet pas. Monsieur Rami, nous avons une minute devant nous. À vous la conclusion.
Oui, il faut savoir que la différence entre la République islamique d'Iran et toutes les autres grandes puissances comme la Chine, la Russie, la France, l'Angleterre, ce que la République islamique d'Iran est opposée à l'occupation, à l'injustice, à l'occupation de la Palestine. Et que tous les autres pays, la Chine reconnaît Israël, c'est-à-dire reconnaît l'occupation, la Russie reconnaît Israël, d'ailleurs Poutine était un grand ami de Netanyahou, d'Israël, tous les autres États, alors que la République islamique d'Iran est le seul pays aujourd'hui, seul État, parmi les grands États qui ne reconnaissent pas l'entité sioniste, qui refusent de reconnaître. Et c'est ça son grand crime, entre guillemets. Et c'est pour cela que Israël pousse les États-Unis à déclarer la guerre pour Israël, au nom d'Israël, contre la République islamique d'Iran. Voilà.
Je vous remercie infiniment alors pour cette émission. Ahmad Rami, directeur de Radio Islam en Suède, Jean-Maxime Cornet, analyste politique, était avec nous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
inflation en hausse, taux de chômage élevé, forte hausse des prix. Les pays européens ne sont pas en très bon état. L'inflation plombe la consommation alimentaire des ménages français. Un nouveau coup dur pour les ménages déjà largement affectés par la hausse du prix de l'énergie. 4,3% d'augmentation des prix en un an et plus de 18% en un an et demi, a rapporté l'INSEE le 11 août. Si l'augmentation est moins forte depuis le début de l'été, elle se maintient et les consommateurs français doivent se serrer la ceinture. Les dépenses alimentaires sont particulièrement concernées. Face à la hausse généralisée des prix, les Français mangent moins. Le journal Les Échos rapporte les chiffres du panéliste Nielsen selon lesquels un Français sur trois limite désormais ses achats de nourriture et d'autres produits essentiels. L'INSEE rapporte que les achats des Français ont chuté de 11,4% en volume depuis le dernier trimestre 2021. Des chiffres inquiétants pour les Français, qui pourraient être même pires à en croire les observations de l'économiste François Guirolf, qui rappelle que les statistiques d'Eurostat sont plus alarmantes encore. À l'augmentation spectaculaire des produits alimentaires s'est ajoutée celle des services, y compris le loyer l'eau, qui atteint 3,1% sur un an, mais qui connaît la plus forte hausse sur un mois, avec plus 1,5% entre le mois de juin et celui de juillet. Quant aux produits manufacturés, ils ont grimpé de 3,4% en un an. Après le coup de massue de l'explosion des prix de l'énergie, les Français doivent composer avec une hausse généralisée des prix dans presque tous les secteurs. La baisse de la consommation alimentaire des Français n'aurait pas d'équivalent en France depuis 1980, selon les Échos. L'économie allemande n'est pas en très bon état. Le ministère allemand de l'économie indique qu'un certain nombre d'indicateurs de marché suggèrent qu'une reprise économique stable est peu probable dans les prochains mois. Sur le front intérieur, la reprise prudente attendue de la consommation privée, des services et de l'investissement montre les premiers signes d'espoir qui devraient se renforcer au fil de l'année, indique le ministère dans son rapport mensuel lundi 14 août. Dans le même temps, la demande extérieure toujours faible, les incertitudes géopolitiques persistantes, les taux de hausse des prix toujours élevés et les effets de plus en plus perceptibles du resserrement monétaire freinent une reprise économique plus forte. Le ministère a publié plutôt une perspective pessimiste pour l'économie attribuant la récession à la flambée des prix de l'énergie et aux taux d'intérêt élevés qui ont eu un impact négatif sur divers secteurs de l'industrie. Les sanctions qui étaient censées porter un coup mortel à l'économie russe se sont transformées en cauchemar pour l'Allemagne, la plus grande économie d'Europe. En juin, la zone euro a officiellement annoncé qu'elle était entrée en récession. Parmi les principaux facteurs de cette crise financière figurait le ralentissement des plus grandes économies du bloc, au sommet duquel se trouvait l'Allemagne. L'Allemagne est sur la voie constante de la chute économique et de la désindustrialisation en raison des politiques et des sanctions anti-russes européennes, a averti la semaine dernière le député allemand Uwe Schulz, membre du parti AfD. Selon l'homme politique, les sanctions hystériques anti-russes de l'Europe sont précédant dans l'histoire en termes de volume et de période au cours desquelles elles ont été adoptées, n'ont pas maîtrisé Moscou, mais ont plutôt poussé le complexe industriel allemand vers le bas, laissant l'un des plus puissants et plus vulnérables pays de l'Union européenne à la hausse des prix de l'énergie et à des taux d'inflation persistants. La situation économique de l'Allemagne s'assombrit, a déclaré plutôt ce mois-ci Clemens Fuest, président de l'Institut IFO. Le PIB de l'Allemagne devrait encore baisser au cours du trimestre en cours, a conclu l'Institut de recherche. Proposant en outre des prévisions épouvantables sur l'économie allemande, Stephen Wolf, le chef de la Fédération des associations d'employeurs allemands des industries métallurgiques et électriques, a déclaré plus tôt cette semaine que les produits allemands ne sont plus compétitifs sur le marché. Il est devenu l'homme malade de l'Europe, a-t-il dit. L'expression « l'homme malade de l'Europe » a été utilisée par la presse à la fin des années 1990 pour décrire l'état désastreux de l'économie allemande qui se contractait lourdement et faisait face à des dépenses élevées pour reconstruire sa fragile industrie de production. Wolf a déclaré qu'une récession se profile dans le pays au second semestre. Des familles britanniques désespérées face à la forte hausse des prix alimentaires. Le coût de certains produits alimentaires de base, tels que le fromage, le beurre et le pain, a grimpé de plus de 30% au cours des deux dernières années. La recherche Which, partagée avec le Guardian, a déclaré que la hausse du coût des produits de première nécessité affecte de manière disproportionnée les ménages à faible revenu. Sue Davis, responsable de la politique alimentaire chez Which, a déclaré que le coût des produits de première nécessité, comme le lait et le beurre, est encore très élevé et exerce une pression énorme sur des millions de personnes. Eric Charland, directeur des affaires extérieures de l'association caritative pour la dette Step Change, affirme que les hausses des prix alimentaires continuent de frapper le plus durement les plus pauvres. Les produits alimentaires avec les taux d'inflation les plus élevés sont le lait, le fromage, les beurres et pâtes à tartiner et les produits de boulangerie. Ce qu'a appelé les détaillants en alimentation a proposé des gammes d'aliments de base abordables dans tous les magasins. L'inflation annuelle de la Grande-Bretagne s'élève actuellement à 7,9%, la plus élevée parmi les pays du groupe des 7. Au Royaume-Uni, le taux de chômage monte à 4,2% à fin juin, sommet en 2 ans. Le taux de chômage au Royaume-Uni a grimpé à 4,2% pour les 3 mois terminés à fin juin, comparé aux 3 mois précédents, un sommet en 2 ans, à l'heure où le pays fait face à une inflation élevée et une crise du coût de la vie. D'après le rapport mensuel de l'Office national des statistiques, ONS, publié mardi, cette montée a été surtout générée par l'augmentation des chômeurs de plus de 6 mois. Le Royaume-Uni fait face à une inflation de quasi 8%, la plus élevée du G7, qui pèse sur les ménages et les entreprises. Ces dernières sont par ailleurs confrontées à une pénurie de main-d'œuvre persistante depuis la fin de la pandémie de COVID-19 et dans la foulée du Brexit. L'augmentation du taux de chômage sera reçue par la Banque d'Angleterre comme un signe que le marché du travail se détend, ce qui va dans le sens de notre prévision d'un resserrement supplémentaire de 25 points de base du taux directeur avant la fin du cycle actuel de tour de vie monétaire pour lutter contre l'inflation. Le ministère britannique des Finances remarque dans un communiqué que le taux de chômage britannique demeure inférieur à celui du Canada, de la France, de l'Italie, de l'Espagne et de la zone euro. Bien que ce chiffre atteigne pour les 3 mois courants d'avril à juin son plus haut depuis la période allant de juillet à septembre 2021, il ajoute que cela reste faible comparé aux moyennes historiques.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.